La suite de notre série de grands entretiens spéciaux tous les jours jusqu'à jeudi. Une tête de liste aux européennes est au micro de France Inter. Avec Alexandra Ben Saïd et Yaël Gauz, nous recevons aujourd'hui celui qui conduit la liste du Rassemblement National pour ces élections, Jordan Bardella. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à notre micro ce matin. Hier soir en Autriche, c'est l'ensemble des ministres du FPE qui ont démissionné. C'est la débâcle après la vidéo montrant le chef du parti et vice-chancelier autrichien prêt à brader un faux oligarque russe une partie de la souveraineté de son pays contre de l'argent. Par ailleurs, Steve Bannon, invité vedette du congrès fondateur du RN en mars 2018 à Lille, était en tournée médiatique en France. Lui veut planter un pieu au cœur du vampire européen. Alors dans le vaste mouvement de recomposition politique en cours dans l'Union européenne, avec de tels amis et de tels alliés, on ne comprend plus Jordan Bardella. Voulez-vous réformer ou démembrer l'Union ?
C'est un peu les gentils contre les méchants, là, votre vision non. assez binaire des relations internationales. Non, écoutez, ces élections européennes, elles sont évidemment majeures. Il y a un enjeu national et Emmanuel Macron s'y implique, donc on en reparlera. Mais en fait, il y a deux visions de la construction européenne qui s'affrontent. C'est-à-dire que soit aujourd'hui, on continue d'aller à marche forcée vers le fédéralisme. On continue de transférer des leviers de pouvoir et des leviers de souveraineté toujours plus importants vers la Commission européenne. Soit on décide d'entendre les peuples, qui sont aujourd'hui une majorité, à souhaiter cette grande coopération entre États, cette grande coopération entre les nations, partant du constat que les disparités, notamment économiques, sociales, entre les pays, sont beaucoup trop importantes. Moi, je fais ce second choix. Et moi, je crois dans un monde multipolaire, où nous avons des relations équilibrées avec l'ensemble des grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation, à commencer par les États-Unis et à commencer par la Russie.
Mais la France a ses relations, c'est bien ça ? Ou c'est l'Union européenne comme puissance ?
Mais la réalité, c'est que l'Europe a inventé les nations. Or, aujourd'hui, cette Union européenne, elle se construit sans les nations. Elle est la négation même des nations. Moi, je considère que entre certains pays de l'Union européenne, il n'y a parfois pas les mêmes intérêts. Nous n'avons parfois pas les mêmes intérêts que l'Allemagne, par exemple. Et donc, il est essentiel que nous ayons une sorte d'Europe à la carte, avec des projets entre États. Et c'est ce qui a fait Ariane, c'est ce qui a fait Airbus, c'est ce qui a marché par le passé. Mais encore une fois, il ne faut pas s'interdire de parler aux autres puissants.
Mais vous voyez bien, Jordan Bardella, que vous êtes à une poignée de main de gens qui ont d'autres visées, qui sont proches de la Russie, c'est ce qu'on voit dans l'affaire autrichienne, ou en tout cas qui s'imaginent prêts à troquer une partie de leur souveraineté contre de l'argent russe. Vous avez Steve Bannon, qui est également l'un des proches de votre mouvement, qui veut affaiblir...
Qui a été le directeur de campagne
bien sûr,
de Donald Trump.
Mais qui veut affaiblir l'Union européenne, il n'en fait pas mystère. Donc, comment vous positionnez par rapport à ça ?
Mais il veut l'affaiblir. Il veut l'affaiblir. Ça, c'est votre point de vue. Mais
il le dit très clairement. L'Union est un vampire, un pieu dans le cœur.
Si vous voulez effectivement qu'on continue,
ça veut pas dire la renforcer.
Non, mais aujourd'hui, l'Union européenne.
Moi, je veux rien. Je vous pose juste la question.
C'est l'impuissance collective. Vous me parlez de l'Autriche. En l'occurrence, on parle de l'un des membres du FPE au pouvoir qui a fait 25% lors des élections législatives, qui a commis une lourde erreur pour laquelle il en a tiré les conclusions puisqu'il s'est retiré de la présidence du FPO et qu'il a démissionné de son poste de vice-chancelier. Maintenant, ça n'enlève rien au fait que les Autrichiens ont voté à 25% pour le FPO parce que l'Autriche fait face à de graves difficultés, notamment sur la question migratoire, et c'est la raison pour laquelle le FPO a été porté au pouvoir aux côtés du chancelier Sébastien Kurz. Les États-Unis de Trump, on nous avait annoncé le chaos lors de l'élection de Donald Trump. Moi, ce que je constate, c'est que l'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée, que on crée tellement d'emplois aux États-Unis qu'on a même plus de main-d'œuvre pour les occuper, à tel point que les mesures protectionnistes qui ont été prises par Donald Trump avantagent même les pays voisins, puisque vous avez vu que Trump souhaite que 45% des importations mexicaines se fassent à condition que les salaires mexicains soient augmentés de 1 à 4 euros. Donc en réalité, toutes les grandes puissances aujourd'hui qui marchent dans la mondialisation sont en train de tourner le dos au libre-échange total, au libre-échange dérégulé, à cette ouverture sans limite des frontières qui est finalement un vieux dogme, un dogme des années 90. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances économiques font du patriotisme économique, font du protectionnisme et défendent leurs intérêts et leurs marchés publics, mais ce qui ne les empêche pas de coopérer avec les autres nations. Yael mais il faut être capable de défendre ses intérêts.
Yael Gauz.
C'est l'un des mots préférés au Rassemblement National, le mot patriote, patriotiste contre mondialiste. Qu'est-ce qu'un patriote, Jordan Bardella ?
Le patriotisme,
le patriote, c'est quoi?
Le patriote, c'est celui qui aime son pays. C'est celui qui aime la terre de ses pères, la terre qui a été léguée par ses ancêtres. Et en l'occurrence, un patriote, c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Quand nous défendons le patriotisme économique, c'est-à-dire la priorité pour nos producteurs, nos éleveurs, nos entrepreneurs dans la commande publique, eh bien, c'est cela, être patriote en matière économique.
Est-ce que votre colistier Jérôme Rivière, numéro 19 sur la liste, ou votre collègue député Louis Alliot sont des patriotes quand il négocie au Bristol avec Steve Bannon, qui lui-même est un ancien conseiller de Trump.
Qui négocie quoi ?
Qui parle de la campagne, qui cherche...
D'accord, donc parler de la campagne électorale...
Conseiller pour lever des fonds, conseiller sur les réseaux sociaux, conseiller en communication politique...
Mais en fait, vous avez une vision extrêmement rabougrie de notre pays. En fait, vous voulez voir notre pays comme isolé sur la scène internationale. Moi, j'ai envie d'un pays qui parle avec les autres puissances. Alors, si vous voulez vous interdire de parler avec les États-Unis de Trump, si vous voulez vous interdire de parler avec les autres nations européennes ou avec la Russie de Poutine, c'est votre droit.
Est-ce que le numéro 2 du gouvernement autrichien est un patriote ? Est-ce que l'ex-numéro 2 du gouvernement autrichien, Strache,
je viens de vous répondre, il a commis une lourde faute pour laquelle il a été sanctionné. Maintenant, n'ayez pas cette vision rabougrie de la France. On nous a expliqué pendant des années que nous étions isolés, que nous étions tout seuls, que nous voulions remettre des barbelés. Je constate effectivement que c'est aujourd'hui une contradiction, puisque nous avons effectivement des discussions avec l'ensemble des pays du monde avec lesquels nous aurons vocation à travailler demain. Mais pardon, mais quand M. Obama a appelé à voter dans une vidéo pour M. Macron au second tour de la présidentielle, on n'a pas entendu parler d'ingérence. Quand Benalla négocie des contrats russes à l'Elysée dans la pièce d'à côté du bureau du président de la République, on ne nous a pas parlé d'ingérence. Quand le parti de Mme Loiseau et de M. Macron au Parlement européen, la LDE, est financé par Google, par Microsoft, par Bayer Monsanto, par Uber, on n'entend pas parler d'ingérence. Donc je note que l'ingérence, c'est un peu à double mesure dans la classe politique et médiatique.
Alors à propos de financement, Jordan Bardella, aujourd'hui c'est interdit, mais en 2014, le Rassemblement National, il a contracté un prêt, plus de 9 millions d'euros auprès d'une banque russe. D'une banque russe, donc est-ce que vous l'avez remboursé intégralement ce prêt? On est 5 ans plus tard.
Non, à ma connaissance, il n'a pas été remboursé intégralement.
Combien a été remboursé?
Je ne sais pas, vous inviterez Valentin Saint-Just, le trésorier du mouvement, qui vous renseignera.
Vous
ne
connaissez pas les finances de votre parti,
sur
tête de liste.
Pardon de ne pas être venu avec le bilan comptable du...
Vous êtes tête de liste RN, vous ne connaissez pas l'état des finances du parti.
Je connais l'état des finances de la campagne électorale pour laquelle je suis tête de liste. J'imagine que vous ne connaissez pas non plus, vous, les finances de France Inter et de l'ensemble du service public audiovisuel.
C'est que la banque, elle a fait faillite. Et en fait, ce qu'on peut se demander aussi, c'est aujourd'hui qui détient le prêt, par exemple.
Mais madame, ça ne vous choque pas que, alors que nous étions en 2015 et que nous sommes, d'après les sondages, le premier parti de France, qu'aucune banque française n'ait souhaité prêter au Front National à l'époque?
Si vous n'avez pas entièrement remboursé, c'est peut-être que les conditions sont particulièrement favorables.
Ce qui me choque, mais vous avez le droit de ne pas être choqué, moi ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, les partis d'opposition ne trouvent pas de banque. Et si nous sommes allés nous fournir effectivement en prêt à l'étranger, c'est parce qu'aucune banque française n'a souhaité prêter au Rassemblement National. Et c'est d'autant vrai que ça a été vrai pour ces élections européennes. On est un mouvement politique, Monsieur Bellamy était dans le même cas, Monsieur Dupont-Aignan était dans le même cas, les autres mouvements politiques étaient dans le même cas, à savoir qu'aujourd'hui les banques françaises ne souhaitent plus prêter aux partis politiques. Lorsque Emmanuel Macron a été élu, ils ont voté pour une banque de la démocratie à laquelle ils ont renoncé, c'est-à-dire une banque qui permettrait de financer la vie politique. Je trouve que c'était une bonne décision, qui allait dans le bon sens. Aujourd'hui, effectivement, être dans l'opposition et trouver un prêt bancaire, c'est extrêmement compliqué, à l'heure où effectivement...
En tout cas, pour vous, l'argent russe n'a pas d'odeur.
Financer. Mais arrêtez avec vos questions binaires. Non, mais vous avez une vision extrêmement renfermée du monde. Pour vous, c'est les gentils contre les méchants.
Il n'y a pas de problème à se financer auprès d'une banque russe proche, comme l'économie l'est en Russie.
Monsieur Demorand,
de fait, le pouvoir. C'est pas une question binaire, c'est une question ouverte.
Oui, mais ce prêt, il a été fait à un taux d'intérêt de 6%. Bon, vous admettrez que c'est pas un prêt d'ami. Maintenant, moi, la question que je vous pose, c'est n'êtes-vous pas choqué par le fait que le premier parti de France ne trouve pas de banque française pour faire un prêt?
Oui, non mais
merci.
Vous l'avez dit.
Vous trouvez
aujourd'hui
pas de banque au sein de l'Union européenne.
Un tel prêt serait interdit. C'est pour ça que je vous pose la
question. Mais aujourd'hui,
question.
C'est interdit. Et d'ailleurs, ça nous met dans une situation difficile parce que il y a un vrai problème aujourd'hui. Effectivement, l'argent est devenu le nerf de la guerre en politique, et c'est bien dommage. Mais à partir du moment où vous avez aucune banque française qui souhaite prêter de l'argent à un parti d'opposition, ça pose un problème. D'autant que nous sommes crédités en tête de ces élections européennes, que nous avons remporté plusieurs élections par le passé, et que nous sommes bien au-delà des 5% nécessaires pour le remboursement par l'État.
Yael Gauz.
Revenons à l'Autriche. Marine Le Pen a parlé d'une faute lourde de la part du chef du FPE. Quelle est cette faute? Comment vous la qualifiez?
Il a manifestement été assez loin dans cette vidéo, qui était un montage.
Est-ce que ça
veut
dire...
Non, mais qui était un montage, parce que la faute est lourde, oui, mais qui... elle a été reconnue, il a été, évidemment, il en a tiré toutes les conséquences en se retirant. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas s'étonner qu'une vidéo qui a 2 ans, qui a été visiblement mise dans le frigidaire, sorte à une semaine des élections européennes ?
Mais avançons, parce qu'on a découvert quand même aussi quelles étaient ses intentions secrètes à travers cette vidéo montée dont vous parlez. Est-ce que ça veut dire que le RN rompt ses relations avec cet allié, c'est votre allié, le FPÖ autrichien ? Est-ce que vous rompez les relations
mais
avec lui ?
On va pas enfin, si vous voulez, il s'agit d'une erreur d'une personne. Le FPÖ autrichien représente 25%. Le FPÖ détient dans le gouvernement de Sébastien Kurz, qui a été élu en 2017, plusieurs ministères. Bon, maintenant, moi, je ne cherche pas des clones. Nous cherchons des alliés. Et effectivement, nous avons beaucoup d'alliés sur la scène internationale, des alliés qui gouvernent. Ça a été vrai en Autriche, c'est vrai en Estonie, c'est vrai en Italie, où j'étais le week-end dernier, où nos alliés de la Ligue gouvernent. Et je peux vous dire que Matteo Salvini, en Italie, il a réussi à redonner confiance au peuple italien, à en croire sa cote de popularité. Et
donc, ça reste un allié. Je travaille avec un allié.
17%, il est aujourd'hui
un allié.
Mais on aura, il s'expliquera d'ailleurs, on aura une réunion évidemment de bureau dans l'ensemble avec nos alliés hein, au sein du groupe après les élections européennes. Mais encore une fois, il a commis une lourde faute et il en a tiré les conclusions en se retirant à la fois du ministère et de la présidence du parti.
Alexandra.
Dans ces conditions, est-ce que vous allez réussir à créer ce grand groupe international souverainiste unique sur lequel vous faites campagne ? Donc il y a quand même cette éclaboussure autrichienne, on peut dire ça comme ça, et puis il y a aussi quand même des tensions avec, je pense aux Polonais, je pense aux Suédois, aux Finlandais, qui ne voient pas quand même votre proximité avec la Russie d'un très bon œil.
Non, je ne le crois pas. Encore une fois,
vous ne croyez pas, pardon.
Je trouve que c'est une vision assez caricaturale. Bien sûr, nous y arriverons. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir un groupe aussi large. Les pronostics de vos confrères nous disent que nous pourrions passer du 8e au 3e groupe au sein de ce Parlement européen. Même Monsieur Juncker craint la poussée des partis souverainistes et l'influence qu'ils auront et que nous aurons demain au sein de ce Parlement européen.
Avec combien d'eurodéputés ?
Une influence. Mais nous verrons. Encore une fois, oui. Ne parlons pas.
Parce que vous parlez de statistiques.
Ne parlons pas avant les urnes de dimanche. Mais la réalité, c'est que nous avons des alliés partout et que l'Europe des nations, du bon sens, des souverainetés, des protections que nous défendons, elle est en train de se mettre en œuvre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est isolé sur la scène européenne.
Mais sans les Polonais, sans les Hongrois, on est
mais
d'accord.
Nous verrons,
pour l'instant.
Mais nous verrons.
Monsieur Orban n'a pas envie de se rapprocher de Marine Le Pen.
Européenne. Mais vous savez, au-delà du groupe que nous allons constituer, ce qui compte, c'est la politique qui va être infléchie au sein de ce Parlement européen. Et c'est vrai que plus les souverainistes seront nombreux, plus ces partis du bon sens seront nombreux dimanche à siéger au Parlement européen, plus nous arriverons en masse et nous pourrons effectivement rejeter les traités de libre-échange ou la relocalisation des quotas de migrants.
Allez, on parle le programme, Jordan Bardella, si vous le voulez bien. Dans votre programme, quand on lit, on ne trouve aucun des mots suivants. Biodiversité, gaz à effet de serre, glyphosate, OGM, pesticides, réchauffement climatique, agriculture bio, énergie renouvelable. Et en 2016, le 4 octobre 2016, Marine Le Pen s'est abstenue lors du vote de ratification de l'accord de Paris sur le climat. Pourquoi ?
Bon, déjà, vous auriez dû lire le manifeste, pas uniquement on a fait un programme assez succinct. Également un manifeste qui détaille la vision qu'on a pour l'Europe. Sur l'écologie, nous,
pourquoi l'accord sur le climat ? Pourquoi l'abstention de votre chef de parti ?
On défend le localisme. On considère aujourd'hui que ce modèle économique, qui est basé sur le dogme de la libre concurrence et du libre-échange total, qui consiste à aller faire produire très loin, à rapatrier en Europe pour ensuite aller retraiter en Afrique, que ce modèle est destructeur de la planète.
On en a déjà beaucoup parlé à l'antenne de ça. La question, c'est pourquoi votre chef de parti s'est abstenu sur l'accord sur le climat.
Écoutez, je ne sais pas de quoi vous me parlez.
L'accord sur le climat.
Oui, non, mais d'accord, mais vous tirez un vote comme ça, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Vous faites comme Madame Loiseau.
Alors, elle était eurodéputée et là, elle n'a pas voté la ratification de l'accord de Paris.
D'accord, bon.
Ensuite, c'était le 4 octobre 2016.
Très bien, très très bien.
Vous le savez ?
Bravo. Non mais écoutez, je ne sais pas et je pense que ça n'intéresse personne.
Vous ne savez pas ce qu'a voté votre ou pas votre
mais vous
chef
savez
de
combien
parti.
De textes nous votons ?
Non mais c'est un accord majeur, un accord mondial.
Oui, non mais vous
climat.
Savez combien de textes on vote en une mandature ?
Je l'ignore.
Bon voilà, des voilà. Centaines et des centaines. Bon. Donc en l'occurrence, je ne sais pas de quel texte vous me parlez.
L'accord de Paris.
Moi je défends en matière écologique le localisme. Voilà. Parce que je considère aujourd'hui que ce modèle qui consiste à aller produire très loin, rapatrier en Europe, protéger en Afrique, est le pire ennemi de la planète. Donc nous, on considère qu'il faut aujourd'hui pouvoir produire raisonnablement tout ce qu'on peut produire chez nous, qu'on doit aujourd'hui produire, consommer, retraiter sur place, en faisant le patriotisme économique, en faisant que, par exemple, dans les cantines de nos collèges, de nos écoles, de nos lycées, on aille d'abord se fournir chez chez nos agriculteurs locaux, chez nos éleveurs, avant d'aller importer des produits alimentaires qui viennent du bout du monde. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème pour la planète. Ce modèle du libre-échange total, c'est le pire ennemi de la planète, et nous y sommes opposés. Donc il faut évidemment lutter et développer les circuits courts.
Donc ça s'appelle les circuits courts.
Tout à fait.
Au-delà de ces circuits courts, que faites-vous pour l'écologie? Que faites-vous? Que proposez-vous pour l'environnement, pour éviter le réchauffement du climat? Vous êtes succinct quand même. Vous dites on a un programme avec de l'écologie, mais honnêtement, à part le localisme, qu'est-ce qu'il y a dans votre programme?
Pardon, mais le localisme, c'est la refonte globale de notre modèle économique. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse payer, si vous voulez, par le
contribuable. L'écologie. Ma question porte sur l'écologie.
Oui, mais on fait pas des. Oui, mais aujourd'hui, le problème de l'écologie, c'est aussi l'économie. Et à partir du moment où vous avez 60 000 super tankers qui traversent toute la planète pour aller approvisionner, chercher des marchandises de très loin, c'est cela qui crée la pollution. Or, aujourd'hui, un cargo de fret maritime pollue autant que l'intégralité du parc automobile français. Donc, si vous voulez, on peut pas faire d'écologie sans revoir notre modèle économique, sans revoir notre modèle de consommation. Il faut développer les circuits courts. Et puis en matière de transition énergétique, vous le savez, nous le disons, le nucléaire est peut-être aujourd'hui l'une des énergies les plus propres, une énergie décarbonée, quasiment décarbonée. Nous n'avons pas les moyens de nous en passer. On a mis beaucoup de moyens dans l'hydrogène. Je pense qu'il faut aller encore plus loin et investir sur les start-up françaises et sur la filière hydrogène.
On file au standard où Benoît nous attend et nous appelle. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci beaucoup de me passer l'antenne. Je voulais poser la question à Jordan Bardella de son positionnement par rapport aux OGM, très très précisément, qui nous explique, parce que j'ai entendu dire que le pari qu'avait fait Bayer, c'était pour le rachat de Monsanto, c'était que l'Europe passait basculer à droite et qu'il pouvait imposer assez rapidement, massivement, la culture des OGM avec le bras armé qui va avec, c'est le glyphosate.
Merci Benoît pour cette question. Jordan Bardella vous répond.
Bonjour monsieur, on doit pouvoir évidemment s'en passer, mais je pense qu'il faut pas être idéologue, il faut être pragmatique et il faut que nos agriculteurs aient quand même des moyens de substitution. Sur le glyphosate, nous on est favorable à ce que on en sorte, mais il faut aussi être cohérent, c'est-à-dire qu'il faut avoir un produit de substitution pour les agriculteurs qui bien souvent en dépendent, et moi j'en ai rencontré dans le cadre de la campagne, et surtout être cohérent en interdisant l'importation de produits qui sont fabriqués à base de glyphosate. Parce qu'aujourd'hui le véritable problème, c'est que vous interdisez une substance pour nos agriculteurs et des substances OGM pour nos agriculteurs, et qu'en réalité avec ces traités de libre-échange qui sont négociés avec le monde entier, eh bien, ces produits se retrouvent quand même dans nos assiettes et dans nos marchés par l'importation. Dans le CETA, par exemple, qu'on a négocié avec le Canada, vous avez aujourd'hui 40 substances chimiques interdites qui ont été découvertes sur le sol européen et qui viennent directement du Canada par ces traités de libre-échange.
Alexandra, Yaël.
Vous voulez donc rétablir en quelque sorte les frontières sur le commerce, hein. Vous dites pas de libre-échange, vous voulez rétablir les frontières aussi pour les personnes, vous voulez de la souveraineté budgétaire. Jordan Bardella, ce que vous êtes en train de proposer aux Français, c'est la France d'avant l'Europe?
Non, c'est la France d'après cette Union européenne. C'est la France qui ferait ce que font 95% des pays du monde, à savoir défendre leurs intérêts d'abord, faire du protectionnisme économique quand c'est nécessaire et protéger leurs filières. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs dans le cadre de cette campagne qui aujourd'hui font face à des difficultés terribles parce que ils sont mis en concurrence avec des produits qui ne respectent pas les mêmes normes que les normes françaises, les normes européennes, parce qu'ils sont mis en concurrence avec des producteurs dont les productions valent 30 à 40% moins dans le cadre des producteurs bovins avec le CETA, et tout cela crée une concurrence déloyale. Donc moi, je vois pas, si vous voulez, pour moi la frontière c'est pas un mur, c'est pas un barbelé, c'est un filtre, c'est une écluse qui doit permettre effectivement de corriger une concurrence déloyale. On peut avoir ensuite des accords économiques avec des pays qui ont le même niveau que le nôtre. L'Union européenne a négocié le JEFTA avec le Japon. Je veux dire, dans des filières où on a à peu près le même niveau économique, ça pose pas de problème de concurrence déloyale. Le problème, c'est quand vous êtes mis en concurrence avec des produits et des pays qui ne respectent pas ni les normes ni les coûts de production françaises et européennes.
Yael Gauss, puis Ilias au standard.
Interview d'Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale ce matin, il dit que vous avez voté contre tout ce qui est dans l'intérêt de la France. Évidemment, vous n'êtes pas des vrais sortants puisque vous étiez une force minoritaire au Parlement européen, mais vos votes sont instructifs. Quota de CO2 imposé aux entreprises, vous avez voté non. Rapport sur la pêche électrique, même chose. Plus de gardes frontières, vous avez dit non. Instaurer le fichier PNR pour lutter contre les risques d'attentats terroristes, non plus. Ça pose question quand même.
Non, ça pose pas question. C'est que ces textes, si vous voulez, renforcent les pouvoirs de la Commission européenne et un certain nombre de secteurs.
Ils peuvent aussi protéger les Français.
Ça ne protège pas. Si on nous reproche souvent d'avoir voté contre le renforcement de Frontex, mais aujourd'hui Frontex, qui est quand même censé charger lutter contre l'immigration clandestine, est une hôtesse d'accueil pour migrants. Frontex aujourd'hui finance des campements de migrants à Lesbos en Grèce. Et quand j'entends, si vous voulez, les propos, hier soir, les propos de Monsieur Avramopoulos, qui est le commissaire européen aux migrations, qui nous explique que l'immigration est un impératif moral et que l'Europe va devoir accueillir 6 millions de migrants supplémentaires dans les prochaines années, bah pardon de ne pas avoir envie de confier les clés de chez moi et les clés de ma maison à ces gens-là. Donc je crois qu'on a toujours été extrêmement cohérent. Maintenant, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il se comporte comme un chef de clan. Il se comporte comme le directeur de campagne de Madame Loiseau, alors que la Constitution et le rôle de président de la République qui est le sien devraient l'appeler à un peu plus de recul et de retenue vis-à-vis de ces élections européennes.
Il nous attend depuis un quart d'heure au standard. Ilias, bonjour, mille excuses, vous avez la parole.
Bonjour Monsieur Demorand, bonjour messieurs, bonjour Madame.
Bonjour.
Alors la question que j'avais à poser à Monsieur Bardella, c'est pourquoi Monsieur Bardella parle-t-il de subversion migratoire dans ses discours, dans ses tweets, dans la mesure où le nombre de migrants a beaucoup baissé depuis 2015 et que le nombre d'arrivées en France, enfin il n'y a pas eu des millions de migrants accueillis contrairement en Allemagne. Voilà. Donc pourquoi parle-t-il de subversion migratoire qui ne semble pas avoir lieu ?
Merci Ilias pour cette question, Jordan Bardella.
Parce que la réalité est là et que nous accueillons en France chaque année, en fait on a passé tous les records d'immigration cette année, les 262 000 titres de séjour qui sont accordés, les 50 000 mineurs isolés, un rapport parlementaire nous expliquait que dans mon département de la Seine-Saint-Denis où je suis élu, où j'ai grandi, vous auriez 20 à 25% de la population qui serait présente de manière clandestine, c'est-à-dire près de 400 000 personnes. En réalité on nous explique que le flux de migrants s'est tari, mais moi ce que je regarde ce sont les chiffres des demandes d'asile, et les chiffres des demandes d'asile augmentent d'année en année. Ils étaient de 100 000 l'an dernier, 2017. Ils ont été de 122 000 en 2018. Or, une grande partie de ces personnes qui viennent sont déboutées du droit d'asile et ne sont pas reconduites à la frontière. La Cour des comptes nous le disait, vous avez 95% des déboutés du droit d'asile qui ne sont pas reconduits à la frontière et qui demeurent donc à la charge de la collectivité. Et moi, effectivement, dans un pays qui compte 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs, ben oui, je considère qu'on ne peut pas accueillir une immigration supplémentaire et qu'il faut réserver les moyens de l'État à nos compatriotes.
Quelques questions plus rapide d'actualité, Yael Gauze.
Coup de théâtre hier soir dans l'affaire Vincent Lambert, vous avez sans doute suivi ça, la Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des traitements. Sa mère salue une très grande victoire, ses avocats ont même fêté la décision hier soir. Vous, Jordan Bardella, c'est ce que vous espériez aussi ?
Je pense, c'est une conviction personnelle, que cette décision va dans le bon sens. C'est un dossier qui est évidemment complexe. La question qu'on peut effectivement se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que aujourd'hui une décision de justice, un juge peut décider si un homme doit vivre ou de ne pas vivre. Vincent Lambert, contrairement à ce qui peut être dit parfois, ne fait pas office d'un, ne subit pas un acharnement thérapeutique. Il est hydraté, il est soigné. Il y a des établissements spécifiques qui sont proposés de l'accueillir. Et effectivement, une décision qui viserait à couper les soins m'apparaît choquante et brutale.
Alors là, vous rejoignez les positions d'un François-Xavier Bellamy sur ce sujet, la vie à tout prix, même si elle est artificielle.
Mais je pense que c'est pas un sujet qui doit poser. C'est un sujet qui est éminemment complexe. Et je comprends évidemment moi la douleur des familles. Mais je vous dis par principe, je suis attaché à la vie, à la dignité humaine.
Leïla est au standard. Leïla depuis Millau. Bonjour. Vous êtes gilet jaune, dites-vous.
Oui, tout à fait. Je suis gilet jaune, humaniste. Je voulais savoir comment Monsieur Bardella pensait nous convaincre de voter pour le Rassemblement National alors que il a plutôt des positions proches de la LERM ou en tout cas de la droite pour la non-redistribution des richesses produites par les travailleurs. Voilà. Pourquoi pas de redistribution?
Hausse du SMIC, vous pensez, voilà, hausse du SMIC, c'est ce que j'imaginais. Merci Leïla pour cette question. Jordan Bardella, vos réponses sur la hausse du SMIC.
Hausse du SMIC, nous on avait trouvé une autre solution parce qu'en fait, si vous augmentez le SMIC, ce sont les chefs d'entreprise et notamment les chefs de TPE, PME qui vont la payer. Donc nous on avait proposé une augmentation de l'ensemble des bas salaires inférieurs à 1500 euros par la prise en charge des cotisations sociales salariales, ce qui permettait d'aller beaucoup plus loin que l'augmentation du SMIC.
La prise en charge par qui, par
les cotisations sociales.
Vous voulez faire prendre les cotisations sociales en charge par qui ?
Par l'État.
Donc par l'impôt des contribuables.
Oui, mais enfin, ce qui suppose de faire des économies ailleurs. Et c'est vrai que beaucoup des revendications qui étaient celles des Gilets jaunes trouvent un écho au sein de notre programme, parce que nous, on défend depuis des années le référendum d'initiative citoyenne. On s'est toujours opposé aux 80 km/h, à l'augmentation des taxes sur l'essence qui aujourd'hui reviennent, parce que le plein d'essence n'a jamais été aussi élevé que depuis le mois d'octobre. Donc, c'est une élection proportionnelle à un tour dimanche. En réalité, nous sommes la seule liste aujourd'hui qui est capable d'arriver devant celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le dit lui-même, si le Rassemblement National arrive devant lui dimanche, alors il ne pourra pas poursuivre sa politique comme il l'a conduit depuis maintenant 2 ans et demi.
Un mot.
Donc moi je dis aux Français, face aux humiliations, au mépris qu'a exprimé le chef de l'État à votre égard, allez voter dimanche pour la seule liste qui est capable d'arriver en tête et ne lui donnez pas les pleins pouvoirs. Voilà, envoyez-lui un signal fort.
Et réponse courte.
Question de bon sens, pourquoi vous les siégez dans une institution dont vous souhaitez au fond la disparition à terme?
Ah mais parce que en prendre le contrôle avec l'ensemble de nos alliés, me mettre autour de la table avec eux et rendre le pouvoir aux Français. Voilà, renégocier l'ensemble de ces traités, ce que nous ne pouvons pas faire avant parce que nous n'avions pas d'alliés. Or, aujourd'hui, cela est possible et nous voulons que chaque pays puisse décider ce qui est bon pour lui, son budget, faire du patriotisme économique et décider de sa politique migratoire.
On en reste là, Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National. Merci d'avoir été au micro de France Inter ce matin et bonne fin de campagne.
France Inter.
Suite et fin aujourd'hui des grands entretiens spéciaux que vous propose France Inter depuis la semaine dernière avec tous les jours une tête de liste aux européennes. La campagne est donc bientôt terminée. Aujourd'hui avec Yaël Gauze, nous recevons celle qui emmène la liste Renaissance, parti La République En Marche. Nathalie Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de France Inter. Progressiste contre populiste, progressiste contre nationaliste. C'est la lecture que fait le président de la République de l'état des forces politiques en présence en Europe. Vous avez naturellement fait campagne en cherchant à imposer ce clivage. Si la position de l'autre camp est claire, une Europe minimale, la souveraineté retrouvée de la France, le contrôle strict des frontières, on peine encore à comprendre ce que serait une Europe progressiste. C'est l'Europe telle qu'elle est, telle qu'elle a toujours été, c'est toujours plus d'Europe pour réparer les manques de l'Europe, c'est l'ouverture contre la fermeture. Qu'est-ce que l'Europe progressiste ?
Alors d'abord, on n'a pas essayé d'installer un match, il est là. Il est là, malheureusement. Moi, je préférerais avoir en face de moi, au coude à coude, des partis qui s'intéressent à l'Europe différemment de nous. La réalité, c'est que en face de moi, au coude à coude, c'est un parti qui veut déconstruire l'Europe. C'est malheureux et ça n'est pas seulement en France. Aujourd'hui, il y a des élections aux Pays-Bas, sont au coude à coude les progressistes du parti du Premier ministre Mark Rutte face à une extrême droite extraordinairement violente, celle d'un dénommé Thierry Baudet. Donc c'est une réalité européenne. Alors, il ne faut pas refuser de la nommer.
Ils avancent en Europe. Vous leur opposez ici en France l'idée d'une Europe progressiste. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'on n'a pas assez demandé à l'Europe. Ça veut dire qu'on a laissé l'Europe être un grand marché, un espace de paix, tant mieux. Et ça, nous le reconnaissons, nous sommes reconnaissants de cet héritage.
Ça, c'est le passé.
Mais aujourd'hui, l'Europe est fragile parce que elle n'a pas assez traité les injustices sociales à travers le continent, parce que en matière fiscale, elle n'a pas avancé d'un millimètre, parce que sur le plan de sa sécurité, elle s'en est remis pendant des décennies aux États-Unis et aujourd'hui, il faut se réveiller. L'Amérique de Donald Trump s'intéresse à l'Europe surtout comme client et surtout en la morcelant. Donc on n'a pas assez demandé à l'Europe et même en matière migratoire, on n'a toujours pas trouvé de solution européenne. Parce que les populistes n'en veulent pas, eux ils veulent vivre du problème. Donc une Europe progressiste, c'est une Europe qui fait revenir le progrès en Europe. Le progrès technologique, on a accepté, nos prédécesseurs ont accepté qu'il se passe ailleurs. En imaginant qu'on pouvait encore avoir une grande révolution technologique nationale. Ça n'existe pas. C'est en Europe qu'on aura la révolution technologique du 21e siècle.
Yaël Gauze.
En tout cas, on a changé d'ambiance, Nathalie Loiseau. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron, il ouvrait son quinquennat par l'hymne à la joie devant la pyramide du Louvre. Et maintenant, on est passé de l'hymne à la joie des débuts à l'hymne à la peur. C'est Yves Bertoncini, l'ex-président de l'Institut Jacques Delors, qui le dit en ces termes. C'est une campagne contre, pas une campagne pour que vous faites. Est-ce que vous le regrettez ?
Au contraire. Ce que je regrette, c'est de pas pouvoir parler assez souvent de mon projet. Ce que je regrette de cette campagne, c'est que ça a été beaucoup des petites phrases, des punchlines, et que finalement, pour entrer dans le projet, c'est plus compliqué. Beaucoup de partis politiques en France sont venus à la campagne des européennes parce qu'il y avait une élection, mais pas parce qu'il y avait l'Europe. Notre projet...
Ils disent que vous avez volé l'élection, ces partis que vous venez de critiquer. Ils le disent, Nathalie Loiseau, que le match, entre guillemets, Rassemblement National, La République En Marche, c'est celui de la présidentielle que vous rejouez là. Donc, c'est vous-même qui avez tout intérêt à faire ce duel plutôt qu'à ouvrir le jeu.
Franchement,
vous découvrez pas la critique. Vous l'avez entendue pendant toute la campagne.
De la part de tête de liste qui déplore, et moi aussi, d'être aussi bas dans les sondages. Moi aussi, je déplore que des partis traditionnels qui combattent le Rassemblement National soient aussi faibles. La différence entre eux et nous, c'est que nous avons une possibilité de le battre. C'est pas fait. C'est pas gagné, mais on peut y arriver. C'est une énorme différence parce que c'est une absolue nécessité. Mais je voudrais reparler du projet parce que, en effet, j'ai ce regret, cette frustration, que très peu ont parlé du projet pendant cette campagne des européennes. Nous, ce que nous proposons aux Français en Europe, c'est de redresser la tête. C'est de se dire que on peut construire un avenir meilleur, moins incertain, moins inquiétant, que c'est possible et que l'Europe peut nous y aider. On a entendu l'Europe qualifiée de tous les maux pendant cette campagne. C'est une vieille habitude française. Tout est toujours de la faute de Bruxelles et au niveau national, on serait tellement meilleur. Moi, je suis désolée. Aujourd'hui, si on veut lutter contre le changement climatique, on a besoin d'un investissement européen massif. Si on veut avoir les champions industriel de demain, c'est au niveau européen que ça va se passer, parce qu'en face, les compétiteurs, ce sont des continents. C'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde.
Comment expliquez-vous qu'une fraction importante de l'électorat européen ne croit plus à ce que vous venez de dire, et qu'on pourrait dire dans un certain nombre de langues, croit même exactement l'inverse ?
Parce que très longtemps, des politiques nationaux se sont essuyés les pieds sur l'Europe. Et très longtemps, les partis traditionnels, pour lesquels j'ai évidemment beaucoup plus de sympathie que pour le Rassemblement National, mais ils ont co-géré l'Europe, j'allais dire, à la pépère. Une espèce d'Europe du statu quo. Or aujourd'hui, tous les défis dont on parle, ce sont des défis pour lesquels il n'y a pas une minute à perdre. L'urgence climatique, on sait que c'est tout de suite.
Alors parlons-en de l'urgence climatique, ça tombe bien, le projet, parlons-en. Il y a eu une lettre aux Européens écrite par Emmanuel Macron début mars qui insistait beaucoup sur les frontières et la protection. Et puis il y a le livret programmatique, votre programme qui a été publié le 9 mai, dans lequel on voit en priorité, en tête de gondole du projet, l'Europe verte. Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que c'est vraiment écolo? Est-ce que vous êtes aujourd'hui, Renaissance, la liste écologiste?
À votre avis, s'il y a Pascal Canfin sur cette liste, s'il y a Pascal Durand sur cette liste, si elle est soutenue par Daniel Cohn-Bendit, est-ce que ça vous garantit pas qu'on a un engagement fort d'écologie de solution?
Ce que nous voulons. C'est vous les écolos aujourd'hui en France.
C'est nous qui pouvons peser. C'est nous qui pouvons changer les choses en Europe.
C'est vous l'écologie efficace, alors.
C'est l'écologie, exactement. C'est l'écologie efficace parce que nous allons constituer un groupe au Parlement européen sans lequel aucune majorité ne sera possible. Et cette priorité climatique, cette priorité écologique qu'on voit monter dans un pays comme l'Allemagne, Pierre Aski le disait très bien. Ce que nous voulons faire, c'est secouer les vieux partis. Pourquoi ça monte en Allemagne? Parce que malheureusement, la CDU s'en est pas emparée. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'Allemagne, elle émet deux fois plus de CO2 que la France, parce qu'elle a des centrales à charbon, et qu'il y a aujourd'hui une jeunesse partout en Europe qui a conscience qu'il faut agir tout de suite, que sinon il est trop tard.
Comment vous faites pour dire que vous êtes la liste écologiste en France, alors que au sein des 79 noms que compose votre liste, on trouve par exemple en quatrième position Jérémy Decerle, ancien des jeunes agriculteurs, pro-FNSEA à l'époque, et Pascal Canfin en numéro 2, ex-WWF. Ouais. On peut être les deux en même temps?
Mais il faut être les deux en même temps. Moi, je ne ferai jamais...
Non, mais
jamais...
on peut être les deux en même temps.
Mais il faut être les deux en même temps. Jérémy Decerle, il partage tout ce qu'il y a dans le projet. Il partage toutes nos convictions, tous nos engagements. Mais moi, je ne vais pas faire de l'écologie contre les agriculteurs ou sans les agriculteurs. On ne va pas diviser les Français les uns contre les autres avec les bons et les méchants. Il faut trouver des solutions ensemble. Sur le glyphosate, par exemple, nous sommes déterminés à sortir du glyphosate en 2021. Pour le moment, il y a des solutions pour 90% des territoires en France. Qu'est-ce qu'on fait avec les 10% qui restent? On les punit? On leur dit tant pis pour vous, ruinez-vous, on vous laisse tomber? Non, il faut accompagner tous ceux qui doivent sortir du glyphosate et mais plus généralement des pesticides, mais en laissant personne sur le bord de la route.
Yannick Jadot, ici même à ce micro hier, Nathalie Loiseau, voyez votre tardif verdissement comme de l'opportunisme politique de fin de campagne afin d'aller assécher non pas des marées mais un certain nombre de réserves électorales, notamment chez les Verts. Et il vous renvoie systématiquement aux deux premières années de bilan d'Emmanuel Macron en la matière. La conversion à l'écologie, vous avez été touché par la grâce là, et que dites-vous aux écologistes anciens qui se battent depuis toute leur vie politique et qui disent attention, c'est de l'arnaque, c'est du greenwashing.
Les écologistes anciens, en tout cas Yannick Jadot, parce qu'il y a beaucoup d'écologistes que je connais depuis très longtemps, parce qu'en ce qui me concerne, c'est un engagement très ancien. Yannick Jadot, il a une conception patrimoniale de l'écologie. Il pense que l'écologie, c'est dans un seul parti et que les électeurs qui se préoccupent de la planète lui appartiennent. Il devrait se réjouir qu'il y ait davantage de partis politiques aujourd'hui en Europe et notamment en France qui prennent au sérieux l'urgence climatique. En réalité, il s'en désole. Qu'est-ce que ça a apporté d'avoir Yannick Jadot depuis 10 ans au Parlement européen? Est-ce que l'Europe a fait un bond en avant en matière écologique?
Ça ne tient pas sur ses seules épaules. Vous le savez
bien. Bien sûr, et heureusement qu'on arrive avec une conviction écologique. Il devrait s'en réjouir. Et demain au Parlement européen, on travaillera avec les Verts, on travaillera avec tous ceux qui portent cette urgence climatique et écologique.
Ah, donc toute la guerre de campagne, en fait, ça c'est rien. Ce ne sont que des mots et des postures. Tout le monde se retrouve lundi matin ou un peu plus tard pour travailler ensemble. C'est ça ce que vous nous dites.
C'est tout sauf des mots et des postures. Enfin, j'espère. J'espère que Yannick Jadot, quand on fera des propositions au Parlement européen pour lutter contre l'urgence climatique, sera pas dans des postures en disant « si c'est pas moi, je dis non ».
Nathalie Loiseau, opportunément, vous ouvrez ce matin un conseil de défense écologique, le premier du genre.
Alors vous, pas moi.
Trois jours. Enfin, ancienne ministre, vous suivez ça de près, évidemment. Mmh. Édouard Philippe, 12 ministres autour d'Emmanuel Macron ce matin pour lancer encore plus ce virage vert dont vous parlez. Vous avez des annonces concrètes à dire en matière d'écologie ce matin? Il va se passer quelque chose ou c'est juste de l'affichage?
Alors, je vous rappelle que je ne suis plus au gouvernement, mais ce que je rappelle aussi, c'est que Nicolas Hulot avait fortement demandé, c'est lui qui a inventé ce concept de conseil de défense écologique.
Non, mais le concept, d'accord, mais est-ce que la coquille est pleine ou elle est vide?
Je suis convaincue qu'elle est pleine, je suis convaincue qu'il y aura des mesures fortes, mais c'est pas à moi de les annoncer avant le Conseil de défense écologique. J'imagine que ça vous ferait plaisir de les avoir sur France Inter en avant-première, c'est pas mon rôle. Mais je suis absolument convaincue de l'engagement de ce gouvernement, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas Demorand. Ce gouvernement, c'est le premier à avoir décidé la fermeture de toutes les centrales à charbon en France.
C'est pas fait encore. Hein.
Bien sûr que ça prend du temps.
Mais on attend de voir, c'est comme Fessenheim.
À votre avis, pourquoi ça prend du temps? Parce que on peut pas mettre en péril l'approvisionnement d'électricité en France. Fermer, si on n'a pas une solution de remplacement, ça veut dire couper le courant.
Oui, mais vous le savez aussi, Nathalie Loiseau, c'est aussi le gouvernement qui a vu partir Nicolas Hulot en disant la politique des petits pas ne suffit pas, ne suffira plus, il n'y a pas de prise de conscience au sein de cette équipe politique et on va à la catastrophe. Donc je veux bien que vous ayez un œil vert sur votre programme, mais il y a quand même un arbre au milieu du paysage, et c'est Nicolas Hulot qui a tiré les leçons idéologiques et politiques de sa présence parmi vous.
Et personnelle. Moi, Nicolas Hulot, c'est quelqu'un pour qui j'ai non seulement de l'estime, mais de l'amitié. Je pense qu'il a été malheureux comme ministre. Je le conçois. J'ai envie de dire à Nicolas Hulot qu'on va le surprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas une minute à perdre. Ce Conseil de défense écologique, il était temps qu'il se réunisse. Ceux qui disent « Pourquoi le réunir maintenant ? Il faut attendre ? Il faut se tourner les pouces pendant l'urgence climatique ? Il faut dire que pour des raisons politiques, on ne fait rien avant un scrutin ?» Mais enfin, bon sang.
Il vous soutient ou pas ? Il a transmis un message.
On se parle souvent.
Vous parlez souvent, mais vous pouvez vous prévaloir de son soutien ?
Je ne parle jamais de quelqu'un à la place de cette personne. Jamais. C'est un principe, parce que je détesterais qu'on parle à ma place.
Parlons de la suite, vous disiez, après le 26 mai.
Les auditeurs,
pardon Nicolas. Après le 26 mai, il y a le 27, il y a la recomposition, la composition des groupes au Parlement européen, ce sera un élément clé. Et poursuivre votre cohérence politique, vous voulez refonder un groupe centriste qui s'appelle l'ALDE aujourd'hui, quatrième force au Parlement européen, dans lequel siège un parti tchèque, anneau, celui du Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, oligarque, anti-immigration et soupçonné d'avoir détourné des dizaines de millions de fonds européens. La police tchèque veut même l'inculper. On a connu plus progressiste comme partenaire. Vous allez faire le ménage après ?
Alors, on a déjà fait le ménage sur ALDE Roumanie. Vous connaissez peut-être ce parti qui soutient un gouvernement qui aujourd'hui encourage la corruption, empêche la lutte contre la criminalité et contre la corruption.
Moi, je vous parle du tchèque Babiš.
Oui, mais je voudrais faire un détour par la Roumanie, pas pour changer de sujet, mais pour dire aussi, parce que j'entends Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy, ce qui me désole, ruer dans les fake news, dire que nous voulons que la Roumanie entre dans l'espace Schengen. Nous avons dit, le président de la République a dit il y a 2 ans que le moment venu, quand la Roumanie aurait répondu à tous les critères, elle était la bienvenue dans Schengen. Aujourd'hui, en Roumanie, la corruption gangrène le pays, le gouvernement fait tout pour éviter cette lutte contre la corruption, donc c'est non à l'entrée.
Et la sur Roumanie la question de Yael Gauz.
Sur la question de Yael Gauz, sur le parti de Monsieur Babiš. Il y a un parti, il y a un Premier ministre. Ce Premier ministre, il y a des soupçons contre lui, il faut que la justice fasse son travail. S'il doit quitter le pouvoir, ça sera une affaire intérieure tchèque. Après, il y a une énorme différence entre la République tchèque et un pays comme la Pologne, un pays comme la Hongrie ou un pays comme la Roumanie. Aujourd'hui, en République tchèque, la justice n'est pas menacée, la presse n'est pas menacée, les libertés ne sont pas menacées. Qu'il y ait un soupçon sur l'utilisation de fonds par le Premier ministre tchèque, c'est à la justice tchèque de le gérer.
Vous faites du partenariat à géométrie variable, on a l'impression. L'ALDE est une vaste auberge espagnole.
Pas du tout, parce que moi je suis ferme sur les valeurs, et les valeurs en République tchèque ne sont pas menacées. En revanche, les Républicains, quand ils disent qu'ils continuent à travailler avec Viktor Orban, qui muselle la presse et qui met la justice à sa botte, ils ne protègent pas la civilisation européenne.
La parole aux auditeurs d'Inter. Françoise, bonjour et bienvenue à l'antenne.
Bonjour.
On vous écoute.
Je voulais demander à Madame Loiseau si elle est consciente que toute confrontation est excluante. Et qu'en voulant obliger les gens à choisir dans cette confrontation qui est organisée avec le RN, ils ne vont pas empêcher des électeurs de voter pour les partis qui ont leur adhésion, alors que l'AREM et RN ne leur conviennent pas du tout. Ils nous foutent les élections européennes en l'air, tous les deux.
Voilà. Vous avez l'impression, Françoise, qu'on vous a volé cette campagne ?
Je pense qu'on est en train, oui, de la voler. Et cette chose arrive grâce à l'AREM et au RN.
Merci, Françoise. Nathalie Loiseau vous répond.
Il y a 34 listes qui se présentent aux élections européennes. Il y a des débats tous les soirs. On ne peut pas dire que quiconque vole la campagne. Mais est-ce qu'on doit fermer les yeux sur le danger de la montée des extrêmes droites en Europe ? Est-ce qu'on doit ne rien dire et faire comme si de rien n'était quand ces extrêmes droites sont les marionnettes de Vladimir Poutine ? Quand Monsieur Baden parade à Paris en disant « je veux atomiser l'Union Européenne et je soutiens Marine Le Pen », il faut se boucher les yeux et les oreilles,
oui, mais vous,
il ne faut pas le dénoncer.
Vous suscitez,
eh bien écoutez, il faut le
vous
dénoncer.
Vous voulez susciter le réflexe de vote utile, de vote surtout pas ça, de vote c'est nous le chaos, c'est notre Europe ou plus d'Europe. Vous jouez sur ce biais-là, qui est un biais ancien dans la vie politique française, Nathalie Loiseau. En dernière instance, c'est là-dessus que vous jouez.
Mais Nicolas Demorand, c'est pas un jeu. Moi, je suis très sérieuse.
C'est là-dessus que vous voulez agir, ou c'est le levier que vous voulez mobiliser, si le verbe jouer vous plaît pas.
Ah, il me plaît pas du tout, parce que ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est pas du tout un jeu. Quand vous avez de l'homophobie qui monte, quand vous avez de l'antisémitisme qui monte, quand vous avez de la xénophobie et du racisme qui monte, quand vous avez de l'autoritarisme qui monte, quand vous avez les libertés menacées, c'est pas un jeu, Nicolas Demorand. Alors on peut continuer à faire comme avant, on peut dire qu'on n'a rien vu, rien compris, rien appris de l'histoire. Moi, c'est un combat. Oui, je le mène. Parce que je nomme l'ennemi, parce que cet ennemi, il peut nous miner de l'intérieur et on peut se réveiller demain et il sera trop tard.
Enfin, vous entendez la colère de cette auditrice électrice, Françoise ?
Je vous demande d'entendre la mienne. Cette électrice, elle est libre de voter pour qui elle veut. Elle a de la chance. Elle est en 2019 en France. La liberté est totale. Les médias sont complètement libres. La justice est complètement libre. Eh bien, qu'elle se dise bien qu'il y a des partis en Europe qui veulent mettre fin à ça.
Cette situation de duel de duopole stérile, comme dit notre auditrice, est-ce que c'est pas la conséquence aussi de vos erreurs de campagne? Avoir nationalisé le scrutin dans une circonscription unique, c'était le choix d'Emmanuel Macron très tôt dans le quinquennat, ça a amené forcément à cette polarisation. Est-ce que vous reconnaissez une forme d'erreur dans la manière de mener cette campagne?
Mais Yael Gauz, 2014, vous vous souvenez, c'était un scrutin régional. Quel est le premier parti qui est sorti de l'élection à ce scrutin régional? Le Rassemblement National. À l'époque, il s'appelait le Front National. 24 députés au Parlement européen qui soit n'ont rien fait, soit se sont servis dans la caisse, soit... puisqu'ils ont été condamnés, il y a une condamnation qui a été prononcée par le tribunal de l'Union européenne, soit ont voté systématiquement contre les intérêts des Français. C'est pas une question de liste nationale ou
alors,
de liste régionale.
Alors, je vais aller au bout de ma question. Si Emmanuel Macron est monté en première ligne, comme il l'a fait là, est-ce que c'est aussi à cause de vos erreurs?
S'il est monté en première ligne, c'est parce qu'il pense qu'il y a un danger pour l'Europe. Il en est convaincu et il veut que tout le monde l'entende. Et je vous rappelle...
Il n'a pas dû être tête de liste par défaut ?
Je vous rappelle, Yael Gauz, qu'en septembre 2018, Jean-Luc Mélenchon a démarré la rentrée en disant « Les européennes, ce sera le référendum anti-Macron ». Je vous rappelle que Jordan Bardella, Marine Le Pen ont passé leur campagne à dire « On va mettre une claque à Macron, on va mettre la fessée à Macron, ça donne le niveau du débat, pardon ». On va faire un référendum anti-Macron. Eh bien, il serait le seul, Emmanuel Macron, à ne pas répliquer à ces attaques. Heureusement qu'il réplique.
Philippe est en ligne depuis Strasbourg. Bienvenue, Philippe.
Bonjour Nicolas Demorand, bonjour Yael Gauz, et merci pour la grande qualité de votre matinale. Bonjour Madame Loiseau.
Bonjour.
Voilà, moi je pense que le danger de la montée des extrêmes, c'est un vrai danger. Mais on n'est pas obligé de tomber dans le premier piège venu. Le match RN République en marche, c'est un faux match. Je vais vous dire ma pensée, je suis extrêmement déçu. Pourtant, j'ai voté avec une très grande conviction et beaucoup, beaucoup de foi en Emmanuel Macron il y a 2 ans. Ma décision pour dimanche, elle est prise. Je vais pour la première fois de ma vie voter pour un parti écologiste. Je vais le faire parce que il manque une chose fondamentale dans votre approche. Ça s'appelle la sincérité. Et voilà, et ça, je travaille dans la communication, je sais ce que c'est que la communication, mais en fait, vous pouvez faire tous les efforts de communication, le manque de sincérité, il est trop visible.
Merci.
J'ai voté pour la première fois de ma vie écologiste, pourtant il y a des postures de gauche auxquelles je n'adhère pas, mais l'urgence écologique est trop, trop importante.
Merci Philippe pour cette intervention. J'ajoute celle de Céline. J'ai voté pour le président, il m'a déçu niveau environnement, donc je ne voterai pas pour En Marche. Je n'ai plus confiance car ils n'ont pas respecté leurs engagements. Je voterai Europe Écologie Les Verts. Voilà ce qu'on nous dit également au Standard. Nathalie Loiseau, sur l'absence de sincérité de cette liste et de ses engagements en matière d'écologie et d'environnement. Quelle est votre réponse?
Eh bien, la différence de Philippe, moi je travaille pas dans la communication et peut-être que je suis pas une très bonne communicante, mais moi je suis dans la sincérité. Moi, si je fais de la politique, c'est pour permettre à mes enfants de vivre sur une planète habitable. Et je suis désolée, mais depuis 2 ans, on a mis fin à l'exploitation et à l'exploration des hydrocarbures en France. On est le seul pays européen à l'avoir fait. Depuis 2 ans, on aide à la conversion vers les voitures propres. On aide à la conversion vers les chaudières propres. On met beaucoup d'argent, et je pense qu'on devra en mettre encore davantage dans l'isolation thermique des logements. Simplement, si on veut aller plus loin, il faut aussi le faire au niveau européen. La taxation du kérosène, par exemple, elle est indispensable, mais elle est infaisable dans un seul pays, parce qu'elle créerait une concurrence déloyale entre les compagnies aériennes. Il faut la faire, cette taxation du kérosène, il faut la faire au niveau européen. La taxe carbone à l'entrée sur le marché, on va pas le faire au niveau national. Il y a que le Rassemblement National qui pense qu'on va fermer les frontières, sortir de l'Union européenne et s'en sortir mieux comme ça. Mais il faut la faire au niveau européen.
Avec tout qui,
ça,
avec, c'est des mesures. Vous entendez quand même ces deux auditeurs. Il y en a d'autres. J'aurais pu lire d'autres interventions, notamment sur l'application France Inter, qui ne vous croient pas, Nathalie Loiseau, et qui vous disent c'est de l'opportunisme ou de la triangulation, comme on dit en cuisine politique. On va mettre un pied chez les Verts, comme ça on affaiblit les Verts. On va mettre un pied du côté de l'écologie, comme ça on rapatrie l'écologie chez nous. Est-ce que vous l'entendez ça?
Mais c'est les les deux
cette
pieds.
Défiance, c'est de la défiance.
C'est de la défiance vis-à-vis de toute la classe politique. Et s'il n'y avait pas de la défiance vis-à-vis de toute la classe politique, il n'y aurait pas aujourd'hui un taux d'abstention annoncé aussi élevé. Je le déplore. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un coup vers les Verts, un coup ailleurs. C'est que aujourd'hui, on a sur notre liste des écologistes convaincus, engagés, et j'en fais partie. Pascal Canfin en est un, Pascal Durand en est un, Daniel Cohn-Bendit nous soutient, mais j'en fais partie. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis dans cette campagne. C'est pour porter cette urgence climatique. Et à la différence d'Europe Écologie Les Verts, je suis désolée, mais nous allons pouvoir peser au Parlement européen. C'est sympathique d'avoir bonne conscience en se disant « je vote pour quelqu'un qui me ressemble ». Mais si ce quelqu'un il bruise quelque part au coin du Parlement européen et qu'il réunit aucune majorité, à quoi ça sert ?
Vous n'en réunirez pas non plus de majorité.
Si, il n'y a pas une majorité qui peut se faire sans nous au Parlement européen.
Oui, si les Verts font le même raisonnement. Plus les Verts seront importants au Parlement européen, plus il sera difficile de se passer d'eux dans ces grandes... formation de compromis.
Mais regardez, depuis plus de 10 ans, les Verts, ils voient passer les trains dans l'Union européenne. Nous serons le troisième groupe. On met fin à cette espèce de co-gestion entre la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle. Ils doivent compter avec nous et avec notre priorité écologique.
Rapidissime.
Très rapidement, vous vous revendiquez du libéralisme, Nathalie Loiseau, la journaliste du Monde. Notre consoeur Ariane Chemin sera convoquée la semaine prochaine par la DGSI, section des atteintes au secret de la défense, pour ses articles sur l'affaire Benalla. Vous trouvez ça normal? Après déjà des convocations, il y a quelques jours, de la cellule d'investigation de Radio France pour des révélations sur les armes françaises au Yémen?
Alors je pense que il faut garder la tête froide. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas l'objet de la convocation. Je ne veux pas parler sans savoir et je trouve qu'il y a déjà beaucoup de gens qui parlent sans savoir sur cette question. Je comprends.
Ça commence à faire beaucoup, non ?
Je comprends que la question qui est posée, c'est d'avoir donné l'identité de quelqu'un qui travaille dans les forces spéciales et du coup de mettre en danger cette personne pour son travail. C'est ce que je comprends, mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur et je ne suis pas à la DGSI. Ceci étant, vous avez raison, ça fait beaucoup. Et ma conviction, c'est qu'on a un devoir de vigilance extrême sur la protection de la liberté de la presse, sur la protection de la liberté des sources, sur la protection des sources, pardon. Mmh. Et ce danger, il existe aujourd'hui clairement en Europe, j'y reviens, en Hongrie, en Pologne. Aujourd'hui, les journalistes sont menacés. Il y a eu l'année dernière 2 journalistes assassinés dans l'Union européenne. Faisons attention. Là encore, les extrémistes veulent la peau de la liberté de la presse. En France, on a la chance d'être dans un état de droit.
Nathalie Loiseau, merci d'avoir été au micro de France Inter. Vous emmenez la liste Renaissance, République en marche. Bonne fin de campagne.
Merci.
France Inter.